Avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir Monsieur Raffarin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. Le Président de la République va donc s'adresser aux Français ce soir à 20h parce que la situation internationale l'exige. C'est ce qu'a dit le chef de l'État ce matin lorsqu'il a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire essentiellement le basculement des États-Unis vers la Russie. On retrouve l'Europe face à son destin. Alors les Européens font bloc derrière l'Ukraine, derrière Volodymyr Zelensky, qu'ils soutiennent. Doivent-ils renouer avec Vladimir Poutine? C'est la question qu'on va se poser, mais je vous propose d'écouter d'abord le porte-parole du Kremlin.
La question est de savoir avec qui s'asseoir à la table des négociations. Pour l'instant, le président ukrainien n'a toujours pas le droit de négocier avec les Russes. Dans l'ensemble, l'approche est positive, mais les choses n'ont pas encore changé.
Alors, est-ce que l'Europe, la France, doivent renouer avec Zelensky, avec Poutine, pardon, Alain?
Écoutez, pour l'instant, je crois que ce serait une très mauvaise idée. Ce serait une très mauvaise idée parce que dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire avec ce qui ressemble à une trahison américaine quand même, avec ce qui ressemble à une rupture d'alliance de 80 ans... Si on reprenait langue, c'est la France, ou l'Europe, maintenant avec Poutine, on donnerait le sentiment d'ajouter une pierre sur la tombe de l'Ukraine. Ça serait pris comme évidemment une trahison. Moi, je crois que s'il s'agit pour l'instant de retrouver quelque chose, c'est d'abord que l'Europe se retrouve elle-même. Elle est dans une situation complètement neuve, assez dramatique, inimaginable il y a encore 2 mois. Dans un cas comme ça, il faut d'abord définir collectivement ce qu'on veut, ce qu'on est. Est-ce que on arrive à mettre sur pied un modèle de défense européenne? Est-ce qu'on dégage les moyens de financement? Est-ce qu'il y a une volonté politique commune? Et puis une fois qu'on arrive à ça, si on y arrive, bon, déjà demain ça va être un rendez-vous très important pour ça, avec le Conseil européen de Bruxelles. Ensuite, il faudra renouer avec les États-Unis et pas avec Poutine, c'est-à-dire tâcher de redéfinir un type de rapport qui sera forcément différent et forcément nouveau. Et puis après, on verra si on peut et si on doit renouer avec Poutine, mais pas sans Zelensky.
C'est une question qu'on se pose toujours dans les situations de conflit. Quand est-ce qu'on doit être diplomate? Quand est-ce qu'on doit être résistant? Pour moi, mon éthique personnelle, c'est qu'on ne peut pas être diplomate quand on est agressé et que sa souveraineté est en cause. Donc là, on est nécessairement résistant. Donc le dialogue est impossible tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu. Il faut d'abord cesser le feu, il faut d'abord cesser l'agression, et si l'agression cesse, alors là, on peut discuter. Mais on ne peut pas discuter en étant agressé.
Mais c'est pas l'Europe qui est agressée, Monsieur Raffarin.
C'est un partenaire de l'Europe, et c'est le continent européen quand même. Et donc, nous sentons dans cette affaire agressée. La manière dont le président Trump a traité Zelensky dans son bureau ovale est quelque chose de scandaleux. Il a vraiment pris des positions qui, moi, m'ont fait froid dans le dos quand même quand je vois que pas un mot pour tous ces morts ukrainiens qui ont été au sacrifice pour leur patrie. Il y a quand même des choses qu'il faut respecter. Il n'y a aucun respect de rien, de nos valeurs. Il parle de civilisation, le président, mais le respect aux morts, c'est d'abord le cœur de nos civilisations. Donc, il y a vraiment un sujet qui est très grave sur cette affaire. On se sent solidaire. Probablement qu'en effet, Trump, par ses attitudes-là, nous a rapprochés de Zelensky. Et probablement qu'il nous a aussi aidé à avoir un sursaut européen. Donc, de ce point de vue-là, il y a des effets positifs à cette maladresse. À mon avis, c'est pour lui une contre-performance que d'avoir remobilisé l'Union.
Oui, mais on se souvient de ces coups de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Alors, ils n'ont rien donné, parce que ça, malheureusement, peut empêcher Poutine d'envahir l'Ukraine. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de renouer le dialogue? Parce que là, visiblement, si on veut la paix, à un moment donné, il va falloir quand même
parler. Emmanuel Macron a été un de ceux, et un des derniers d'ailleurs, qui avait essayé de dissuader Poutine d'envahir l'Ukraine. Effectivement, et on se rappelle cette fameuse rencontre à Moscou où ils étaient chacun à une extrémité d'une table interminable, ce qui était déjà une façon de symboliser une distance, alors qu'Emmanuel Macron aurait voulu au contraire un rapprochement à ce moment-là. Bon, il a fait ce qu'il a pu et ce qu'il a cru devoir faire pour tenter d'empêcher l'invasion. Ça n'a rien empêché du tout, évidemment, mais c'était pas déshonorant d'essayer d'empêcher une invasion. Aujourd'hui, c'est la question de Poutine pour les Européens. C'est d'abord, on ne peut pas imaginer reprendre langue et négocier avec Poutine sans l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine soit avec nous. Évidemment.
On ne peut pas laisser Trump seul face à Poutine. On ne peut pas à la fois dire.
Je suis d'accord. On
parce
ne peut
que
pas
sinon
laisser.
On est en jeu,
ah non, mais attention, on va être. On va, là, c'est les collabos. On est résistant, on est collabo. On est dans une guerre. Comme
ah, on parlait à Poutine. Si on parle à Poutine, on est collabo.
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, ah,
l'agression. Moi, je pense. De Gaulle a été très clair. De Gaulle, quand il était, il discute avec tout le monde pour éviter la guerre. Et puis, à partir du moment où nous sommes agressés, il est résistant. Et là, il faut pas d'ambiguïté.
On a pas été envahi, monsieur.
Non, mais la Russie, c'est pas l'Allemagne de 39.
Non, mais à partir du moment où notre cause, qui est notre cause ukrainienne, est-elle blessée, envahie, souveraineté menacée, que derrière ça, on a une inquiétude très très forte de voir que si Poutine gagne ce combat-là, il ira sur d'autres combats et donc là nous serons directement menacés. Nous sommes dans une situation où nous sommes agressés et étant agressés, plus en même temps lâché par le président américain, dans ce contexte-là, oui. Je pense qu'on serait dans une logique de la collaboration si nous parlions. Tant qu'il n'y a pas d'agression, on doit éviter la guerre. Et jusqu'à la dernière minute, on doit parler avec l'adversaire pour éviter la guerre.
Et pour sortir de la guerre, il faut bien parler avec l'adversaire.
Avec cette expression employée,
mais quand,
si on parle à Poutine, on est le collabo.
S'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de discussion.
Vous êtes d'accord avec cette expression?
Collabo, ce n'est pas forcément le mot que j'emploierais, mais je suis d'accord sur l'idée, d'ailleurs j'ai commencé par ça, qu'on ne peut imaginer négocier avec Poutine, un, qu'avec Zelensky, deux, quand on saura qui nous sommes. C'est-à-dire ce que nous voulons faire. Et quand on dit qui sera et que voulons-nous faire, nous, Européens, bah c'est évidemment d'abord par rapport à Poutine. C'est par rapport à lui qu'en fait on se définit. Et puis ensuite, je réponds à votre question. Quand on se rappelle tout ce que Poutine dit de l'Europe et des Européens depuis le début du conflit avec l'Ukraine, avant aussi, on l'écoutait différemment. Depuis qu'il y a l'invasion sur l'Ukraine, Poutine ne cesse d'insulter les Européens en tant qu'Européens, sans arrêt. Et c'est lui, mais Medvedev, qui a été quand même un président deux fois, un président de la Russie, et qui nous traite d'une façon, on n'a jamais traité personne de cette manière-là dans notre histoire. Enfin, c'est bon, il nous traite comme des adversaires. Et de ce point de vue, s'il nous traite comme des adversaires et que on va gentiment à Moscou pour discuter avec lui, on aura l'air, effectivement, de s'agenouiller au moment où, au contraire, il faut essayer de renforcer Zelensky.
D'accord, mais je disais dans les Échos ce matin que de plus en plus en Europe, il y a l'hypothèse d'un retour en masse du gaz russe pour faire justement baisser les prix, parce que les Européens se plaignent d'un gaz trop cher. Donc je vois bien quand même qu'effectivement, il ne faut pas parler, il faut être ferme avec, mais en même temps, on a encore besoin du gaz russe, visiblement. Et c'est une hypothèse qui gagne du terrain en Europe.
C'est pour ça que le mot collabo est assez juste. On est résistant, on est collabo en période de guerre. Il y a un moment où il faut savoir que on ne peut pas discuter avec. Quand M. Trump part directement à Poutine sans parler avec Zelensky, je pense que s'il avait été dans le climat que nous avons connu dans la Seconde Guerre mondiale, il aurait été traité de collabo. Parce que c'est vraiment, il fait une démarche qui est quand même un coup de poignard dans le dos de celui qui se bat, de celui qui a un peuple qui est en train de se faire tuer pour défendre sa souveraineté nationale. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on, tant qu'il y a agression, on ne peut vraiment pas discuter avec Poutine. Alors, c'est vrai que c'est toute la stratégie de Trump. Trump est en train de créer un rapport de force brutal pour dire que dire au Groenland vous serez plus riche si vous venez avec moi. Donc on a plein d'intérêts qui fait que la guerre ça coûte. La guerre c'est difficile. Nous sommes agressés, il faut qu'on se défende. Mais c'est pas une raison pour aller chercher chez l'adversaire les moyens de notre subsistance. C'est sur nos propres forces qu'il faut les trouver.
Oui,
et là aujourd'hui on va pas prendre du gaz russe alors qu'on a dit pendant très longtemps que c'était l'objet de sanctions. Très coupable.
Mais c'est pour ça que je crois que la priorité, c'est ce qui va être discuté demain à Bruxelles. Donc là, on parle pas de choses dans l'air, hein. Il s'agit de choses précises. Est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord entre Européens, entre les 27, pour mettre sur pied une Europe de la défense qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais dont on commence à voir comment on pourrait la financer? Ça prendra longtemps, hein, pas de la financer.
Il y a Orban ce soir à Paris.
Comment?
Il y a Orban ce soir, le Hongrois.
Mais justement.
Qui dîne avec Emmanuel Macron et qui lui, il y a des pays de l'Union Européenne qui veulent prolonger la guerre.
Eh bien, justement, tout le monde sait très bien.
Reproche à
ces pays. Non, mais tout le monde sait très bien que Orban, c'est le bras de Poutine en Europe. On le sait très bien. Bon, bah, de même que les Slovaques, etc. Enfin, les Slovaques.
Donc, cette Europe à 27.
Le gouvernement slovaque, pas les Slovaques, évidemment. Mais Bon, on est dans cette situation-là. Elle est difficile. On ne peut devenir un interlocuteur. Ça, en tout cas, c'est le mot que moi je préfère plutôt que d'autres, que si l'Europe démontre sa résolution. Pour démontrer sa résolution, eh ben, il faut prendre des décisions. Alors, il y aura peut-être certains qui tenteront de s'y opposer. Mais je vous signale qu'on a absolument tous les moyens de passer outre. Si Orban n'est pas content, on a tous les moyens de passer outre. À commencer par les moyens financiers à l'échelle européenne. Et je crois que vraiment, la priorité, c'est il nous faut une industrie de la défense et il nous faut l'expression collective d'une résolution. Et d'une résolution face à qui ? Face à Poutine en un et face à Trump.
Ben justement, si on ne dialogue pas avec Poutine, on se fâche avec Trump ? Alors, du coup.
Non, il faut. De toute façon, là, nous sommes dans une situation où nous avons.
Il faut se fâcher avec Trump. Non, c'est-à-dire avoir un bras de fer avec lui, et tant pis si on n'est plus d'accord. Et
on n'est pas d'accord avec Trump sur beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons besoin de Trump pour ne pas perdre cette guerre.
Oui, faut pas se passer des Américains quand même.
C'est clair. Donc c'est pour ça que toute la logique qui a été de montrer la solidarité de l'Europe, y compris avec le Royaume-Uni, tout ce sommet de Londres a été fait autour du thème, il faut se réconcilier avec Trump, il faut relancer. Et Zelensky lui-même a lancé de nouvelles initiatives. Donc je crois qu'il faut qu'on amène Trump dans cette affaire. Mon sentiment personnel, c'est que de toute façon, il nous faut créer, je dirais, une double stratégie. Aujourd'hui, il faut déclencher un rapport de force suffisamment puissant de l'Union européenne derrière Zelensky, pour bien montrer que Zelensky n'est pas tout seul et que Zelensky n'est pas un pion qu'on peut interchanger.
Il était en Allemagne aujourd'hui.
En nommant quelqu'un qui serait proche de Poutine et qui ferait la capitulation. On a ce travail-là. Je pense qu'on a aussi un travail à faire, qui est un travail de leadership de l'Europe. Donc je pense que ce que j'attends, c'est un signal ce soir important sur ce sujet, c'est de la relation avec l'Allemagne. Le chancelier futur est venu à Paris, il a dîné, quelles sont toutes ses positions, comment
est-ce lui que veut la réarmer l'Allemagne, hein, il l'a dit clairement.
Oui, donc comment nous on va articuler notre relation franco-allemande. Je pense que de toute façon, le leadership européen sur ces questions-là, durablement, c'est quelque chose qui est d'abord franco-allemand et ensuite un accord avec le Royaume-Uni. Parce que sur le plan militaire, on a besoin du Royaume-Uni et on a des proximités très fortes entre l'armée française et l'armée du Royaume-Uni. Donc, on ne peut pas avoir une rivalité, même si on sait que les Anglais ne sont pas avec nous sur la géopolitique, mais les Français sont avec nous sur la géographie parce qu'ils ont la défense du continent européen avec nous. Donc, on a un accord qu'il faut avoir et cet accord, il faut l'avoir entre Français et Allemands. Parce que c'est là où sont les forces capables de construire cette défense européenne. S'il n'y a pas cette proximité-là, on n'aura pas de défense européenne. Il faut un plan à 15 ans. Il faut un plan qui s'est. Donc, il nous faut un accord avec Trump pour une certaine période, parce qu'on a besoin de Trump pour une certaine période. Mais il faut.
Et après, on le remplace.
Et après, les Américains. Et après, il faut qu'on le remplace. Il faut qu'on assure notre sécurité.
Oui, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on doit ressusciter ce qui s'était dissipé, c'est-à-dire un accord franco-allemand, qui, il faut bien le dire, n'a pas existé depuis des années et des années. Parce que c'était vrai sur Schulz, c'était déjà vrai sous Merkel. La coopération franco-germanique, elle vacille depuis maintenant 20 ans.
Depuis Chirac-Schröder.
Bon, eh ben c'est ça qu'il faut ressusciter. Ça n'est jamais facile de ressusciter. Heureusement, le futur chancelier allemand a l'air plutôt bien disposé. Absolument. Et aller dans le même sens que nous, ce qui est une bonne chose. Donc, il faut évidemment ressusciter ça, parce qu'on sait très bien que c'est toujours le cœur de l'Europe.
Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, Alain, parce que dans ce désastre général, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et Macron, tous les trois, ont l'air de pouvoir constituer un leadership européen. Donc, c'est quand même un point positif.
Et ensuite, moi, ce que j'espère voir se dégager dès demain, c'est une résolution commune pour devenir ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que l'Europe soit une force militaire autonome, pas une force militaire hostile aux Américains, évidemment. Bien sûr qu'il y aura des formes de coopération qui devront demeurer. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà nécessaires, mais il y en a qui, de toute façon, sont souhaitables. Mais au-delà de ça, il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes, il faut qu'on ose exister. Et il faut reconnaître ce qui est. Emmanuel Macron, il commet des erreurs en politique intérieure. En ce qui concerne la politique européenne et la nécessité de mettre sur pied une Europe de la défense, c'est quand même ce qu'il essaye de pousser depuis 2017. Et donc, il est quand même pas mal placé pour entraîner les autres, d'autant plus que, par exemple, le futur chancelier allemand reconnaît tout à fait le rôle que Macron a joué. Et donc, je pense que les deux peuvent s'entendre et entraîner... Je ne dis pas les 27. La vérité, c'est que si la Hongrie n'est pas contente, ça ne nous empêche pas d'avancer.
Exactement. Du tout. Tant qu'on assiste à des surchauffes diplomatiques aussi en ce moment du côté de Pékin. Oui. Il suffit de voir que Donald Trump a respecté, lui, sa parole de dire droit de douane vis-à-vis de la Chine. Et regardez ce qu'a aujourd'hui écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, relayé d'ailleurs par l'ambassade de Chine aux États-Unis. L'intimidation ne nous fait pas peur. La pression, la coercition, les menaces ne sont pas la bonne façon de traiter avec la Chine. Si la guerre est ce que veulent les États-Unis, qu'il s'agisse d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. On est vraiment dans l'escalade, Jean-Pierre Raffarin.
Mais oui, parce que je pense qu'il est toujours très clair que l'ennemi numéro un des Américains, c'est la Chine. Mmh. Et la compétition est probablement que dans cette relation avec Poutine, il y a certainement ce que est une vieille tradition du Pentagone, qui est de ne pas mettre les intérêts russes et les intérêts chinois dans le même panier, disait Kissinger. Donc, séparer la Chine de la Russie, c'est certainement un des éléments stratégiques, peut-être secondaires, mais un élément stratégique aujourd'hui de la stratégie de Trump. Donc, c'est clair aujourd'hui que la tension principale, c'est la tension qui est en train de monter entre Chine et États-Unis. Les États-Unis disent clairement que c'est le Pacifique maintenant qui est le lieu de l'avenir. C'est plus l'Europe, c'est plus l'Atlantique. C'est le Pacifique et c'est dans le Pacifique la compétition avec la Chine qui est dominante. Et donc, je pense que toute guerre commerciale, en effet, peut prendre des proportions. Et il faut faire très attention dans cette situation parce que ce qu'on pourrait craindre, c'est qu'à un moment, le désordre international donne le sentiment à la Chine que c'est peut-être le moment de régler l'affaire de Taïwan. Ce qui serait extrêmement dangereux et ce qui est très préoccupant. Parce qu'à partir du moment où les Chinois voient les Américains très occupés sur cet autre front, peut-être qu'ils pourraient être tentés de ça. Je ne le pense pas, personnellement, mais je crains un peu cela parce que c'est là où les choses peuvent s'embraser et où là, naturellement, nous sommes dans une situation vraiment, véritablement de guerre très lourde.
Mais alors, que Trump essaye de diviser l'axe qui existe entre les Russes et les Chinois, parce que cet axe existe, et on le voit d'ailleurs au déroulement de la guerre.
Oui, il s'est renforcé considérablement depuis 10 ans.
Justement, qu'il essaye de mettre un coin entre les deux, autrement dit, qu'il se montre agressif comme il l'avait annoncé, et comme il le sera avec nous, sur le plan commercial, vis-à-vis des Chinois, et en même temps tellement accommodant vis-à-vis des Russes, c'est il y a évidemment l'idée de mettre un coin entre les Russes et les Chinois. Est-ce que ça peut réussir? Je vois pas très bien l'intérêt ni de la Russie ni de la Chine de mettre en pièce les liens qu'ils ont réellement tissés. Il y en a un qui est essentiellement producteur de matières premières et d'énergie, qui est la Russie, et les Chinois qui développent une industrie exceptionnelle avec une rapidité impressionnante. Qui fait peur aux États-Unis, ils sont complémentaires. Ils sont bien plus complémentaires que la Russie ne le sera jamais avec les États-Unis. Oui. Autrement dit, l'idée américaine de diviser la Chine et la Russie, c'est un mythe.
C'est à l'heure.
Je pense. Mais on peut se dire, clairement aujourd'hui, c'est que l'escalade des brutalités, voilà à quoi ça conduit. Car cette brutalité, cette violence que met Trump dans la gouvernance mondiale génère chez les autres une montée aussi de la violence. Et ce texte-là est un texte qui est beaucoup plus violent que les textes précédents. Et donc on sent qu'il y a une escalade de la brutalité. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui.
Merci. Et celui qui tient les détonateurs, c'est Trump.
Merci Alain Duhamel. Merci Jean-Pierre.